Merci. Donc, nous accueillons à l'estrade Claude Finkelstein, et non pas sur la table, Rachel, présidente de la Fédération des associations d'usagers en psychiatrie. Nous accueillons également Michel Drioux de l'UNAFAM, famille et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Nous accueillons également le docteur Olivier Drevon, psychiatre et président de l'Union nationale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques privés. Et puis André Biche, directeur de l'association Fil Rouge à Rennes et administrateur de la Fédération Croix-Marine. Alors, on va vous demander de peut-être réagir aux différentes présentations qui ont été effectuées autour, bien sûr, du thème de cet après-midi. Quel modèle d'offre de soins territorialisée, ce qui a été présenté, vous inspire-t-il, répond-il à vos attentes? Quel parcours et comment l'appelleriez-vous? Parcours de soins, d'autonomie, parcours de santé et parcours de vie. Et puis ensuite, eh ben, nous échangerons avec la salle et nous prendrons les questions. Peut-être Claude? Oui, alors Rachel, à juste titre, me dit, je vous propose de prendre la parole 5 minutes chacun et puis ensuite, on part sur les questions. Merci.
Okay. On va vous donner... Oui, on peut leur donner le micro.
Merci. Pas facile. Pas facile du tout, pas facile du tout. Je ne suis pas sûre de sortir de l'après-midi, sauf si on évolue un petit peu plus vite ou différemment, avec une connaissance, savoir plus où je suis, où est ma place et où je me trouve dans le paysage qu'en rentrant. Parce qu'en rentrant, j'avais des idées bien précises et là, je ne sais plus à quelle sauce je vais être mangée. Alors, déjà dans le titre, du secteur psychiatrique au service territorial de santé mentale, évolution sémantique ou rupture historique. Ouf, j'aime pas trop les ruptures, notamment dans le parcours de soins. Et l'évolution sémantique, je crois qu'on y est en plein, mais je me pose vraiment des questions. Hier, j'ai assisté à la réunion... de la mission Lafourcade, vous savez à peu près tous qui a été présenté par Madame la Ministre et la mission qui a été donnée, enfin, je crois qu'il n'y a pas de lettre de mission encore vraiment, si j'ai bien compris, je ne sais plus très bien où j'en suis. La mission qui a été donnée à Monsieur Lafourcade, et je me suis aperçue qu'il y avait une grande interrogation encore sur ce mot secteur. Alors, je vais vous dire ce que nous on attend, hein. D'abord, on attend que le secteur soit conforté, qu'il s'articule avec le territoire. Mais qu'est-ce que c'est le territoire? Territoire de santé, territoire bassin de vie, bassin de travail. Enfin, il y a quand même beaucoup de questions. Hein. Moi, j'aime bien la sémantique quand je sais qu'est-ce qu'il y a dessus. Un mot est important. Bon, j'aime bien que ce mot, ça soit ce que je lui donne et ce que les gens en face donnent. Donc, ça peut d'abord discuter, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur le même mot. Usager, usager, ERS, ES. Enfin, bref, on est un peu tout ça, nous. Hein. Alors, quand on discute chez nous, dans les associations d'usagers, le seul mot où on est d'accord, c'est la folie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, il y a quand même des choses à discuter. Hein. Bon. Et puis, le secteur, qu'est-ce qu'on en veut? La proximité, la responsabilité et la continuité. Je n'ai pas envie, comme ça se passe maintenant dans quelques secteurs en France, dans quelques hôpitaux, dans quelques endroits en France, je ne sais plus quoi dire comme mot, là, je ne sais plus. Je n'ai pas envie d'être obligée de, à chaque fois que je suis hospitalisée ou que je vais voir quelqu'un, raconter toute ma vie. Parce que mon histoire de psychiatrie, ma souffrance, ce pourquoi je consulte et pour laquelle, ce pourquoi j'ai besoin de soins et éventuellement de molécules, c'est toute ma vie. Je ne peux pas raconter juste, voilà, je souffre de ça, plaque, vous m'avez pris une prise de sang, j'ai trop de fer dans le sang. Non, ce n'est pas ça, là. Hein. Ce n'est pas ça. Parce que la personne qui me soigne, il faut qu'elle sache quels sont les facteurs qui peuvent faire que je suis plus fragile un jour qu'un autre et pourquoi je vais retomber. Je me rappelle très bien au tout début, un psychiatre qui avait écrit sur mon dossier, elle va mieux, elle a mis du rouge aux lèvres. Or, moi, quand je mets du rouge aux lèvres, vous avez intérêt à avoir la trouille. Parce que c'est là que je commence à penser à des choses qu'il ne faut pas penser. Donc, vous voyez, hein, Alors, il faut raconter quand même toute sa vie à chaque fois. Bon. Alors, attention au tiroir. Je ne suis la même personne, mais ne me mettez pas dans le tiroir dangerosité, parce qu'un jour, je peux être extrêmement dangereuse. Tous ceux qui me connaissent ici ne connaissent pas ma violence, mm-hmm. mais je peux vous assurer qu'il y en a. Hein. Ou je peux être très calme. Je peux être dangereuse pour moi. J'ai fait quand même 4 tentatives de suicide, dont un passage par la fenêtre. C'est moi, c'est mon truc. Hein. Bon, 4 tentatives de suicide presque réussies, pratiquement réussies. Hein. Mais je peux être dangereuse pour les autres. Demandez à mon ex-mari, enfin, il est toujours marié, mais ex quand même, je suis séparée, il vous dira. Je peux être dangereuse pour moi, pour les autres. Je peux être hospitalisée, je peux être internée, je peux être difficile, et parfois je peux être compliante. Tout ça, c'est la même personne. Alors, si vous essayez de saucissonner la personne pour la mettre dans un endroit ou dans un autre, ou la soigner d'une manière ou d'une autre à un moment donné de sa vie, c'est foutu. Et je suis tout à fait représentative des personnes que je représente, parce qu'elles se reconnaissent en moi au point de voter toujours pour que je sois la présidente de la FNAPSI. Donc, essayez de réfléchir. Essayez, bah oui, c'est ça le problème. Essayez de penser à la sémantique et puis essayez de voir comment on va essayer de mettre, je dis toujours encore, dans cette loi, le mot secteur, le mot territoire, et de respecter dans cette loi des grands fondamentaux, mais ne pas décliner la psychiatrie, parce que ce n'est pas une loi de psychiatrie. Voilà. Je suis embêtée, je ne sais plus où je suis. Tout ce que j'ai entendu ne correspond pas à ce dont j'ai besoin. Et j'ai entendu des belles pratiques à droite à gauche. Ça correspond à ce que je vois depuis 20 ans, mais pas une cohérence. Mmh. Voilà. Alors, ce n'est pas très gentil ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Voilà. Okay. Passer les familles maintenant, peut-être qu'elles ont une autre idée.
Okay. Oui, vous réagissez les uns à la suite des autres, parce que si on fait des commentaires, nous, et après on passera la parole à la salle et on fera des
préparer quelques diapos. Que il est exact qu'on a entendu parler beaucoup d'institutions, de fêtes, et un peu moins des clients. Hein, l'usager est quand même un client, donc je soutiens ce qu'a dit Claude. Je me permettrai de faire remarquer tout de même que les familles, de fait, avec l'évolution de la psychiatrie...
Ah oui, il faudrait lui donner...
Alors.
Aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait là ?
Soignez pas.
Oui, donc l'évolution de la psychiatrie a transformé et continue de transformer le rôle et l'implication des familles qui deviennent aidants de fait. Pour une majorité d'entre elles, prise en charge... Ah ben vous l'avez là. Voilà, pour une majorité, la prise en charge dans la cité est égale à la prise en charge dans la famille. L'accompagnement au long cours de proches souffrant de maladies psychiatriques sévères avec ses multiples aléas, que je ne détaillerai pas, a permis aux familles d'acquérir une certaine expertise dans la définition des besoins des personnes malades, dans les diverses réponses à apporter afin de faciliter autant que possible une insertion ou une réinsertion sociale. J'ai fait exprès de mettre insertion ou réinsertion parce que dans certains cas, il n'y a jamais eu d'insertion sociale. Et dans le soutien nécessaire aux aidants de proximité que nous sommes. Alors l'offre de soins que nous demandons est établie dans le cadre de dispositifs de secteur. À l'UNAFAM, nous plébiscitons les secteurs. Doit garantir l'ensemble d'une population donnée sur un territoire géographique donné. Nous demandons un recours de proximité, incluant des interventions à domicile. Et là, il y a une grande inégalité. Selon les CMP auxquels nous avons affaire, les personnes se déplacent et dans d'autres cas ne se déplacent pas. Donc, que ce soit pour des personnes qui sont déjà inscrites au CMP du secteur ou que ce soit pour des personnes qui sont concernées par un premier épisode psychotique. Une continuité des soins, y compris sous contrainte, je voulais dire, sans consentement, afin de sécuriser le parcours de vie des patients. Ceci implique donc des ressources humaines et financières suffisantes pour mettre en place les moyens nécessaires à une prise en charge précoce, rapide et de qualité. J'insiste sur précoce, parce que nous demandons aussi à ce qu'il y ait davantage de possibilités de réhabilitation, ce qui suppose que la maladie est prise au début. Alors nous demandons la constitution d'équipes mobiles d'intervention dont les coûts pourraient être mutualisés sur plusieurs secteurs, un SAMU psy pour intervenir dans des situations de crise, qu'il s'agisse de soins avec ou sans consentement. Ce matin, j'ai entendu parler donc d'insertion, mais il faut bien voir que pour les personnes qui souffrent de maladies psychiatriques handicapantes, la possibilité et la qualité de la réinsertion passent obligatoirement par l'accès à des soins précoces et de qualité. Alors, nous préconisons également des partenariats entre tous les acteurs concernés, le sanitaire, le médico-social, le social et les élus. Des moyens nécessaires pour assurer donc la continuité des soins, et on revient sur les visites à domicile et la proximité des soignants. Nous demandons que la mission du soin de proximité soit inscrite dans la nouvelle loi. Là, je pense qu'il faut légiférer sur ce point. Des moyens nécessaires pour mettre en place des remédiations psychosociales en créant des centres de bilan neuropsychologiques au sein des établissements de santé. Il y en a relativement peu encore aujourd'hui. Par ailleurs, ça nécessite des neuropsychologues. Or, nous manquons un peu de neuropsychologues et nous avons plutôt des psychologues cliniciens. Des moyens nécessaires pour former les intervenants des services à domicile afin d'adapter au mieux leurs interventions aux besoins des personnes. Nous demandons également que les ARS fassent des incitations fortes à la constitution de conseils locaux de santé mentale. Le conseil local de santé mentale, quelqu'un en a parlé ce matin, je viens d'en préconiser un sur Chaville, à côté de Paris, quelque chose d'extrêmement valable et permet la déstigmatisation parce que ça permet de mettre en place des réponses rapides dans les cas où on a des situations complexes qui font que la population locale, l'environnement, rejette la personne malade. La promotion de mesures d'hébergement, comme l'habitat partagé, les résidences d'accueil, les activités par le maintien du financement des GEM, la création de places d'ESAT hors les murs, pour ceux qui peuvent travailler, et des mesures d'aide au maintien dans l'emploi, pour ceux qui sont encore en situation de travail, et des actions de soutien et d'accompagnement pour les aidants familiaux, qui sont pour certains en limite d'épuisement, sachant que la maladie se décompense à peu près entre 15 et 30 ans, on va dire, mais bon, les personnes vieillissent, et ce n'est pas toujours évident. Je termine en rappelant donc les 6 points préconisés par l'UNAFAM, continuité des soins, des ressources, un logement et un accompagnement, une protection juridique et des activités quand c'est possible. Et je rajoute le 7e point de notre président actuel, c'est l'aide aux aidants familiaux.
Très bien. Voilà. Docteur Drévon.
Bien, donc j'ai une dure place, parce que depuis le début de l'après-midi, on n'a pas trop évoqué l'hospitalisation privée ou la psychiatrie libérale, un peu la médecine générale. Bon, est-ce qu'on existe? Il me semble qu'on existe. J'aime pas bien le débat secteur, pas secteur. Ça fait 30 ans que le secteur existe. Bon, il est là, il fonctionne plus ou moins, mais ceux qui le font fonctionner peuvent le faire fonctionner mieux. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Les textes sont là, il n'y a pas besoin de refaire des trucs. Une loi, ça doit être quoi? Ça doit être un cadre qui initie des perspectives et non pas qui rigidifie des systèmes. Sinon, on va retomber dans des complexités. Et on ne va plus avoir de liberté, chacun, à Lille, à Strasbourg, dans mon hôpital privé, ou en Corrèze, qui ne va pas être les mêmes problématiques. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on demande des lois précises, on s'enferme. On a déjà les patients qui sont enfermés. Il faudrait plutôt que nos lois soient plutôt ouvertes. Première chose. Deuxième chose, on parle de parcours de soins. Le parcours de soins, c'est vrai qu'une clinique privée, en général, 90% de ses patients ou de sa file active, elle vient du territoire de santé. Je dis territoire de santé parce qu'on n'est pas sectorisé. Mais elle vient du bassin de population qui est autour de la clinique. Et ceux qui ont des hôpitaux dans des petites villes, je parle dans des villes moyennes, c'est plus facile que dans les grandes villes. Grandes villes, le problème se pose différemment. Mais dans les villes moyennes, moi j'ai Saint-Étienne, je peux avoir Bayonne, la clinique, elle reçoit des Bayonnais ou des Stéphanois, un peu dans la périphérie du bassin de population. Donc elle est aussi dans ce parcours de soins du patient qui a été exprimé. Dans le parcours de soins du patient qui a été exprimé au niveau du pôle hospitalier de Grenoble, comme exemple, moi j'ai regretté que c'était fermé. J'ai vu, j'ai vu quelque chose de fermé. Pas de notion de médecine générale, très peu. Très, très peu. D'où ils viennent, les patients? Où est-ce qu'ils vont? Dans quelle structure? Peu importe qu'ils soient soit du public ou du privé, moi, honnêtement, ça m'est complètement égal. Vraiment, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est des compétences. Et qu'on définisse ces compétences, et au travers de ce parcours de soins, que les compétences, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, ça n'a pas tellement d'importance, d'autant plus en psychiatrie, puisqu'on n'est pas en concurrence. La grande différence qu'il y a entre la psy et les autres spécialités MCO, c'est qu'en MCO, vous piquez un chirurgien, votre chiffre d'affaires, il augmente de 10%, que ce soit dans le public ou dans le privé. Si vous avez une équipe d'ostalmo, comme il se crée actuellement au CHU de Saint-Étienne, je vais vous dire que le bilan du CHU, il va l'augmenter de 10%. Forcément. Donc, on n'est pas du tout dans la même problématique. Et il ne faudrait pas se tromper de système ou de vision dans une réforme du parcours de soins ou dans l'appréhension d'un parcours de soins. C'est forcément une complémentarité. On a la chance en France d'avoir des acteurs différents, une psychiatrie libérale qui est assez riche. Il faut sans doute les mettre un peu dans le réseau. Dieu sait si ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Comme les médecins généralistes, comme vous avez eu cette difficulté, mais il est vrai qu'une journée, ça fait 10 heures, et que les 10 heures, si vous en enlevez 2, ça fait 2 heures qui ne sont pas payées. Tout simplement, ça ne va pas plus loin. Je dirais que ça peut aller un peu plus loin quand même. C'est un peu réducteur ce que je dis. Mais quand même, ça compte. Pas beaucoup, vous avez un établissement privé, pas beaucoup de psychiatres vont se dire, je lui dis, tu ne peux pas aller à telle réunion, c'est difficile. Ça vient du débrouillage, bon, t'es sympa, tu vas y aller, etc. Ce qu'on a fait, aussi bien dans le public que dans le privé. Mais il est vrai qu'on n'a pas la même disponibilité, c'est de fait. Donc il faut trouver les systèmes. Je crois que ça a été dit un peu dans l'organisation, le neurologue là, sur les réseaux l'a dit. Il y a une autre réflexion que j'avais sur les réseaux quand, dans la présentation du neurologue de Voiron, c'est j'ai été étonné, c'est à un moment, il dit en conclusion presque, elle voulait aller au soleil, le patient voulait aller au soleil, on l'a mis au froid. Mais quelle erreur! Pourquoi au départ, on n'a pas mis ce paramètre dans l'étude ou dans le parcours du patient? Le parcours qui l'amène là ou là, mais qu'on s'en rende compte à la fin, je dis, qu'est-ce qu'on a fait là? Et il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que le parcours du patient, c'est le patient qui est au centre. Ce n'est pas notre parcours. Notre parcours, il doit s'adapter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit un peu pluridisciplinaire et pluristatut. Hein, pour que chacun s'enrichisse. Et je crois que tout à l'heure, on parlait aussi des clivages. Hein, on parlait des clivages. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on fait des choses dans son coin. Nous, on a ouvert, par exemple, des hôpitaux de jour, pas mal, hein, depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est intelligent dans une clinique, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour, qu'est-ce qu'il se fait? Je ne fais pas pareil, je propose autre chose. Fumariscole, c'est bien à Lyon, il y a 4 ou 5 unités de temps partiel qui débordent de boulot. Mais qui ont prévu quoi? Du stress au travail, de l'estime de soi, de la réhabilitation pour les malades bipolaires. Il y en a d'autres qui font mère-enfant, il y en a qui font des consultations de post-urgence. Donc on voit bien que là, ce parcours, il faut bien l'intégrer. Et je crois que si on reste fermé, dans tous les cas, moi c'est ce que je développe dans mon syndicat, si vous restez fermé dans une clinique comme c'était il y a 20 ans ou 30 ans, c'était comme ça, comme dans les asiles d'ailleurs, c'était pareil. Hein, si je mets ce mot-là, c'est bien, c'est sciemment. Je crois
les asiles, ça fait un peu plus longtemps quand même.
Non, 50 ans, allez, 50 ans.
Ah ben si,
40 ans, quoi, j'ai 60, allez, quand j'étais étudiant. Hein, c'était juste après, bon. Dans certaines régions, ça a mis longtemps quand même. Hein. Et quelques régions où ça a mis un peu plus de temps qu'ailleurs. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce parcours de soins. Et je crois que si on se bat que sur le secteur dynamisé, rénové, je pense qu'à mon avis, on a tort. Moi, je ne me battrai pas là-dessus. Je veux dire que je n'irai pas contre. Ça ne m'intéresse pas trop parce que je pense qu'on a des outils et que si on propose à nos tutelles que ça, je crois qu'ils vont sauter dessus, ils vont s'en servir. On a un budget qui est assez important. Moi, j'ai toujours dit qu'on avait suffisamment de budget sur la santé mentale quand on étudiait les budgets en Europe et aux États-Unis. Mais il faut qu'on soit plus efficient, qu'on évalue un peu plus. Je suis d'accord avec vous sur quand même, on est un peu plus scientifique. Quand même, on code un peu les RIMP. Ça peut-être nous a aidé aussi à réfléchir sur où mettre ce patient, dans quelle catégorie, pourquoi, pas pour la mettre dans une catégorie, pour savoir un peu aussi comment, qu'est-ce qu'on va faire. Un patient qui rentre hospitalisé, on sait ce qu'on va faire quand même, au moins à la sortie. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'outils ou de passages pour éviter ces systèmes où, je regrette, il y a quand même encore pas mal de ruptures. Merci.
Olivier Drémond, je réserve ma réponse pour après. Disons, j'ai bien sûr. Hein, voilà. Voilà. Alors, c'est André Biche.
Oui.
Directeur, vous êtes directeur du fil sans terrain, c'est ça ?
Fil rouge. Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a une erreur sur la plaquette. Fil rouge n'est pas une association, mais c'est un groupement de coopération médico-sociale. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a maintenant 10 ans, effectivement. À l'époque, ce n'était pas un groupement de coopération médico-sociale il y a 10 ans, puisque la loi n'existait pas pour les faire, tout simplement. Mais on s'est posé la question au niveau d'un territoire, comment on fait en sorte que des personnes qui sont dans une problématique de santé mentale puissent, puisqu'elles le demandent, aller vers l'emploi. Et la réponse qui s'est mise en place assez rapidement, ça a été de dire « c'est pas une question des soignants ou que des soignants, c'est pas qu'une question que des dispositifs d'insertion professionnelle, ce n'est pas qu'une question des ESAT, ce n'est pas qu'une question de l'action sociale, c'est une question de tous ensemble ». Et le dispositif qui a été mis en place regroupe aujourd'hui 9 structures qui dédient des moyens à accompagner ensemble les personnes qui le sollicitent. Je dirais que ce premier mot, c'est un mot clé pour moi, c'est celui de coopération. Et on a travaillé ces questions-là, je peux dire qu'en 10 ans, moi je venais du secteur de l'action sociale et de l'insertion, le rapport qu'il y a eu avec les soignants, avec la psychiatrie en 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Je me rappelle la première fois où j'ai fait le tour des différents services de l'hôpital local, et il y a un nombre important de services, on était parfois bien accueillis, parfois avec une politesse, mais alors qu'aujourd'hui la coopération va de soi. Et la collègue qui est détachée du CHR, qui travaille dans le groupement, dit aujourd'hui « je n'ai aucune difficulté pour travailler avec aucune des équipes des différents secteurs ». On voit comment, en 10 ans, c'est pas le groupement lui-même qui a changé, c'est qu'effectivement, l'approche de ce qu'on appelle peut-être la psychiatrie sociale, si vous autorisez le mot, est rentrée peut-être dans les mœurs pratiques. Et je crois qu'effectivement, vous avez parlé de l'étude à Naples, et effectivement, comment, sur le territoire, on se parle facilement, c'est ça. Mais c'est aussi la présence au quotidien sur la semaine d'information sur la santé mentale. C'est 50 événements à Rennes, la semaine d'information sur la santé mentale, et avec tout le monde qui s'y met. C'est un certain nombre de choses qui font qu'effectivement, la psychiatrie, elle est dans la cité. Et c'est devenu naturel pour les acteurs de la psychiatrie d'y être. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Alors, je me suis dit, tiens, ce matin, comment je pourrais parler de ce que c'est que cette notion d'offre de soins, de territorialité, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Première réunion de ma journée après avoir un peu géré des questions de ressources humaines, mais ça, bon, ça c'est du détail. J'ai lancé une réunion de travail. C'était une équipe du CATTP du quartier qui venait au SAVS et ils sont en train de travailler sur la question comment est-ce qu'on monte un atelier culinaire ensemble ? Deuxième réunion dans la suite. Là, c'est une association de parents avec lequel on travaillait, qui est sur le montage d'un habitat regroupé avec l'office HLM, qui doit s'intégrer dans un bâtiment dans la cité, où la ville est dans le coup, où on a aussi probablement des personnes âgées qui vont intégrer le même espace. Tout d'un coup, effectivement, où sont les personnes qui ont une difficulté de santé mentale là-dedans ? Comment on fait ? Voilà, elles sont dans la cité. Ensuite, la réunion de l'après-midi était assez intéressante. On changeait de registre. J'étais avec mon directeur général qui rencontrait le directeur général d'une autre grande structure du handicap. Et là, il fallait se causer effectivement de marché public et de tensions qu'il peut y avoir entre coopération et concurrence. Donc, effectivement, il faut savoir mettre des mots là-dessus. C'est aussi la réalité de la problématique de l'offre de rétablissement. J'ai envie de dire comme ça, parce qu'effectivement, ça va bien au-delà de la simple question du soin et du parcours de vie. Et puis, bon, la journée se continue comme ça. Un dossier à traiter à la demande de la MDPH sur la question de l'employabilité. Et là encore, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas la question de spécialistes de l'emploi, mais qu'effectivement, là aussi, le médecin psychiatre qui travaille avec tout va être associé au dossier. On est sur ces dynamiques où, effectivement, la coopération elle va de soi. Dernière réunion était intéressante aussi, puisque là, c'est sur une autre association. Tiens, encore le mot association qui revient, où c'est un réseau qui travaille sur la question de l'art comme levier. Comment, effectivement, l'art est un levier pour les populations en vulnérabilité. Et je dis bien en vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a des populations avec une problématique de santé mentale, des femmes en exclusion, des jeunes en rupture scolaire, 3 points de suspension, même une structure qui fait des artistes qui interviennent dans des halls d'immeubles pour faire de la convivialité entre les habitants. Et je crois qu'effectivement, où est-ce qu'on va sur cette question de territoire? Comment est-ce qu'on fait? On a une politique inclusive, c'est-à-dire effectivement qui ne commence pas par discriminer les publics, mais qui commence à poser la question comment est-ce que les acteurs qui sont en lien avec ces publics se mettent en lien entre eux pour peut-être inventer des réponses dans la société. Donc voilà un petit peu le témoignage de ma journée. Je pourrais continuer parce que demain, il y en a encore. Mais voilà une petite illustration de ce qui est peut-être une autre approche de la santé mentale. Et puis, notamment sur un élément clé aussi, c'est que tout ça, ça ne se fait pas effectivement en dehors des personnes. Alors, je dis des personnes, j'ose même plus trop utiliser le terme d'usager, parce qu'effectivement, ce sont des citoyens qui doivent, avec lesquels on doit travailler, puisque c'est notre boulot de travailler pour eux et avec eux. Donc voilà un petit peu, un petit clin d'œil.
Disons, maintenant, la parole est à la salle. On débattra un petit peu avec notre collègue Sbiral après, pour ne pas éviter d'occulter le débat. Alors, à vous la parole. Vous en pensez quoi tout ça? Est-ce que vous pensez, comme Claude, que les choses sont tellement complexes? Tout à l'heure, je crois que c'est Gérard Mix, le premier intervenant, qui avait dit effectivement, on est dans l'ère, je crois, hein, de la complexité et la certitude. Il me semble que c'est lui. Est-ce que vous êtes perplexe? Alors, je sais pas, j'espère que j'ai pas rajouté à votre perplexité par rapport à ça. Moi, je crois qu'au contraire, c'est très riche comme débat. Alors, le problème, c'est qu'après, on a sur la table des idées, des convictions, des vérités. Et après, vers où on va, quoi? Moi, je trouvais qu'on pourrait repartir sur les modèles. Tout à l'heure, disons, c'est mon collègue et ami Andrea Pierrot qui a évoqué un modèle, justement, à 3 ou 4 niveaux. Il me semblait que c'était la psychiatrie communautaire. Et je crois, hein, de mémoire, parce que je l'ai vu rapidement, psychiatrie communautaire, ce qui était technique, ce qui était plus sectoriel ou plurisectoriel, c'est dans ces débats-là, c'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, comment on fait sur un parcours? Moi, disons, en même temps, je réfléchissais quand tu as présenté ça, je me disais, moi, j'imaginais plutôt un système, donc dans un parcours, où bien entendu, l'hôpital fait partie du parcours, hein, pour moi, c'est évident. Alors, l'hôpital et la clinique, quand il y en a une, parce qu'il me semble dans mes souvenirs que les cliniques psychiatriques, il n'y en a pas partout, et que les psychiatres libéraux, je ne vais pas enfoncer la polémique, j'ai pas mal d'amis psychiatres libéraux, puisqu'on est les mêmes, hein, qui ne prennent pas de patients dans les 6 mois à venir parce qu'ils sont complets. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de faire un parcours, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc, moi, je dirais, il y a un niveau de proximité. Et donc, dans le niveau de proximité, moi, je mettrais, mais peut-être que je me trompe, hein, le niveau de proximité, donc tout ce qui est, on va dire, secteur ou reconnu, ou conforté, ou rénové. Bon, secteur. Un deuxième niveau, que je mettrais donc aussi bien la structure hospitalière et extra-hospitalière. Un deuxième niveau, où je mettrais davantage les structures spécifiques, ce que j'appelle les structures intersectorielles, comme des unités spécifiques sur les jeunes suicidants, j'en ai une, ou des unités, disons, j'en ai fait une dans le service, ou des unités spécifiques sur la psychogériatrie, des unités spécifiques qui sont souvent plurisectorielles, faut le dire, ou plurisectorielles, ou même à un niveau plus important, à un niveau de territoire. Et un troisième niveau, moi je mettrais au niveau d'un territoire, c'est la notion peut-être de ce qu'on appelle, il n'y en a pas beaucoup en France, mais de centres experts, de centres de référence, de centres de santé publique qui permettent aussi d'alimenter en termes scientifiques, en termes de bonnes pratiques. On a beaucoup parlé de ça, comment on peut faire les réseaux. Alors, bien sûr, la psychiatrie libérale, je la mettrais au premier niveau, au niveau de la, niveau, il me semble, niveau de pratiques de proximité. Mais moi, je dirais, je verrais ça comme ça. Alors, je demande à mon collègue et ami Andréa Pion, tu penses quoi de ce modèle-là? Voilà, le voilà.
Ah, oui,
on va peut-être prendre un micro mobile.
Aléatoire. Alors, je ne sais pas si on pourrait remettre ma présentation, parce que, alors, c'est pour répondre aussi au docteur Devron. Et finalement, le problème, c'est que je n'ai pas eu vraiment le temps de présenter mon modèle. Ce que j'ai présenté, c'était, bon, j'ai passé presque plus de temps à me présenter moi-même que le modèle, je présente. Mais parce que, effectivement, j'avais prévu une intervention un peu plus longue, les 15 minutes. Ouais. Bon. Donc, je tiens quand même à répondre aux deux questions. Bon, déjà, donc, c'est pas un modèle fermé. C'est exactement l'opposé d'un modèle fermé. Parce que là, ce que nous avons essayé de faire, et nous avons essayé de faire, et il faut avoir aussi, il faut le dire, un peu de moyens supplémentaires et des redéploiements et des choix à faire. Comme, madame, quelqu'un disait, le neuropsychologue, pour la question des neuropsychologues, c'est une question importante. Est-ce qu'on transforme des postes de psychologue en neuropsychologue, par exemple? C'est une des questions difficiles, vous savez très bien. Bon. Donc, la première, dans notre modèle, la question que nous avons essayé de répondre à des besoins qui, finalement, pour l'instant, ne sont pas trop encore pris en charge par le modèle ancien, l'actuel modèle, dans notre hôpital, sur notre territoire. Comme je disais, le territoire pour nous, c'est le pôle, le territoire du pôle. Donc, par exemple, la question des urgences sur le territoire, vous disiez le SAMU psy, sur ça, j'ai des expériences italiennes, je dois dire, ça n'a pas fonctionné, mais la question du besoin de la réponse sur le territoire sur les urgences, c'est importante. Donc, les familles, souvent, nous soulignent ça, et on est tout à fait d'accord, et c'est vrai que le CMP, pour ceux qu'il est en ce moment, il n'arrive pas à répondre à ce type de demandes. La question de l'activité non programmée, hein, parce qu'après, il y a l'urgence, mais il y a l'activité programmée, c'est pas la même chose. Hein, ça, c'est, et encore une fois, vous le soulignez, c'est très important. C'est vrai qu'au CMP, on est souvent débordé, on a des consultations, le planning, non, qui est plan, et quand il y a un appel, de la part d'un médecin généraliste qui veut discuter d'un cas, c'est difficile de lui répondre. Donc, la question des médecins, dans la question des VAD, comme vous avez souligné, donc là, pour des patients qui ne sont pas connus, donc c'est une situation, et pour des personnes qui sont déjà connues, donc déjà pris en charge, qui sont en rupture, qui n'arrivent pas à consulter. Et comme je disais, la question des généralistes. Donc, on est très ouvert sur ce point-là. Comme je disais, j'ai parlé des collaborative care. C'est un modèle un peu à l'anglais. C'est-à-dire des prises en charge partagées entre le médecin généraliste, le psychiatre qui reste plutôt comme un expert sur le diagnostic et le traitement, et des infirmiers, des équipes mobiles qui pourraient aider le médecin généraliste pour des prises en charge. Sans, parce que le but, c'est de ne pas faire arriver tout au CMP. Parce que le CMP ne pourra pas, l'augmentation des files actives à un moment donné, même si on demande des moyens supplémentaires, on n'arrivera pas. Et on risque, en plus, on a fait des études en Italie sur ça dans un CMP, on risque de psychiatriser, de chroniciser et de rendre dépendants des personnes qui n'ont pas besoin de l'être. Ils n'ont pas raison de l'être. Donc, il faut arriver à faire un filtre. Et la psychiatrie communautaire, l'unité de psychiatrie communautaire, donc des équipes mobiles avec des psychiatres, psychologues, neuropsychologues, c'est effectivement à ce type d'objectif. La question des niveaux, donc là, donc on n'a parlé que de l'ESTRA, mais après, toute notre organisation intra au niveau. Ça doit s'articuler avec l'ESTRA, c'est clair, et avec le parcours de soins. Mais la question, par exemple, du niveau 1,5, pourquoi je parle d'un 1,5? Alors, pour moi, le niveau CMP, c'est le niveau sectorisé, c'est les soins, comme vous disiez, c'est la continuité, c'est là qu'il faut la continuité, c'est là qu'il faut la sectorisation dure et pure, on peut dire, mais pas pour tous les patients. Oui, mais pour les patients, on parle des pathologies chroniques, des pathologies récurrentes aussi, parce qu'encore une fois, c'est pas la même chose. Les pathologies psychiatriques ne sont pas toutes chroniques. Souvent sont récurrentes, mais pas forcément chroniques. Hein. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, le niveau CMP, c'est pour nous le deuxième niveau. Hein. C'est un niveau, comme dire, il faut y arriver s'il y a vraiment besoin. Mais une fois qu'on y est arrivé, là, il faut pouvoir être suivi, VAD, avoir tout ce qu'il faut. Le niveau réhabilitation psychosociale, côté rémédiation et côté réinsertion sociale, un peu plus à l'italienne, comme je disais, c'est un niveau 1,5. Pourquoi? Parce que on sait très bien que certaines interventions, notamment la rémédiation cognitive, si on la fait précocement, même sur des sujets au risque, ça évite que ces personnes deviennent malades. Donc, ça ne peut pas être un niveau trop, comment dire, il ne faut pas trop attendre. Il faut faire vite, là, dans ce côté-là. Donc, ça doit être un niveau 1,5, mais ça doit être aussi un niveau qui répond aux patients des CMP et qui ont besoin, pas forcément d'un bilan neuropsychologique, psychologique hyper pointu, mais quand même des certaines interventions un peu plus techniques. Hein. Donc l'idée, c'est d'articuler tout ça, de créer des parcours de soins, mais on a fait tout ça parce qu'effectivement, nous rencontrons les familles, les usagers, là, vous voyez, l'association VELP aussi, on travaille beaucoup, il y a plein de choses, moi, j'ai fait un peu une caricature quand on disait de l'évaluation des psychiatres, donc je voulais pas dire que les psychiatres sont pas dans une dynamique d'évaluation, on a beaucoup avancé sur ça, mais ce que je voulais souligner, effectivement, qu'ils nous sont prêts à nous remettre en question. Donc on est là pour se remettre en question et on est ouvert. C'est exactement l'opposé de ce que vous disiez, docteur Devron.
Très bien. Est-ce que toujours pas de questions au niveau de la salle? Non? A priori, non. Personne ne veut réagir? Oui, je vous en prie, allez-y, madame Drioux.
Oui. Concernant l'intervention des médecins généralistes, à l'UNAFAM, nous sommes tout à fait pour que les médecins généralistes puissent intervenir précocement. Pour une raison simple, c'est que la plupart, enfin les jeunes, iront facilement consulter un médecin généraliste, leur médecin, et les familles également. Ça n'a pas le côté un petit peu stigmatisant d'aller voir un médecin psychiatre. Ça permettrait justement éventuellement de pouvoir constater des problématiques psychiatriques hein, qui sont en train de se mettre en place et de réagir donc précocement. Le problème, on demande à ce que ce soit financé parce qu'il est clair qu'une consultation par une personne un petit peu en difficulté psychiatrique dure plus longtemps et donc il faudrait que les médecins généralistes aient la possibilité de tenir compte de leur temps passé à s'occuper. Voilà. Je crois que c'est une des raisons parce que à l'occasion de la mise en place d'un conseil local de santé mentale en région parisienne, j'ai entendu le médecin chef du secteur se plaindre justement que les généralistes étaient pas très, ne répondaient pas à ces convocations pour justement mettre en place quelque chose de récurrent et de suivi. Parce qu'au départ, il y a quand même ce gros problème de financement de leur activité. C'est de la médecine libérale, ils ont quand même besoin aussi d'être financés. Concernant la psychiatrie libérale, je suis donc moi administratrice à l'UNAFAM, mais j'assure également une permanence d'accueil sur de villes de la région parisienne. Et je reçois des parents dont l'enfant est allé en consultation chez des médecins psychiatres libéraux, parce que c'est pareil, c'est moins stigmatisant que d'aller, etc., pendant des années, et ça ne donne aucun résultat, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'obligation quand même de faire prendre des traitements, et que le médecin libéral n'a pas, ou en tout cas celui qui était fréquenté, n'avait pas les moyens d'imposer le traitement. Donc ça s'est terminé par une hospitalisation sans consentement à l'EPSM le plus proche. Voilà.
Deux choses sur le généraliste. C'est vrai que c'est d'abord il y a un problème de formation important dans le cursus des médecins généralistes. Vous savez qu'ils n'ont pas forcément un stage en psychiatrie. Donc ils ont, alors que ça représente 40% de leur métier. Quoi. Donc moi, j'avais fait un colloque là-dessus sur les médecins généralistes et le lien avec la psychiatrie et la formation, les internes. Pourquoi les internes de médecine générale ne vont pas systématiquement en psychiatrie chez un psychiatre ou à l'hôpital de médecine générale, je parle, hein, je ne parle pas de spécialité. Et pour faire de la psychiatrie aux urgences, c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Quoi. Le collège des médecins généralistes, ce n'est pas si ouvert que ça. Quoi. Voilà, c'est nous qui formons, c'est pas vous en tant que spécialiste. Donc c'était une petite chose. Sur la psychiatrie libérale, il est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Encore que, actuellement, si le psychiatre libéral est un peu ouvert et s'intéresse un peu, et a deux, trois infirmières à domicile avec qui il travaille un peu en lien et qui fait un peu son petit truc, il peut le faire. La Sécu n'a jamais refusé une surveillance thérapeutique pour un patient psychiatrique, jamais. Hein, et travailler un peu avec l'assistante sociale du coin. Alors, dire c'est pas organisé, c'est comme ça, mais c'est une question peut-être d'ouverture, mais peut-être aussi de formation. C'est-à-dire qu'on doit nous former aussi, en tant que psychiatres libéraux, ou en tant que psychiatre tout court, à travailler avec d'autres. C'est, on rejoint la même chose. Si on n'a pas la structure, on doit avoir aussi cette curiosité-là qu'on nous apprend à la médecine, c'est la curiosité, hein, de savoir un diagnostic, c'est d'être curieux pour voir ce qu'il a derrière, hein, et non pas se fier que ça, ou à son rouge à lèvres. Ou en tous les cas, comprendre ce que ça signifie le rouge à lèvres chez certains. Enfin, si on est psychiatre, on le sait un peu quand même quand on connaît nos patients. Hein. Et on sait avoir une fois ou une demi-fois, mais pas plus. Donc, ça, c'est ça, il y a un problème pour le parcours de soins, il y a un problème de base, c'est-à-dire on travaille ensemble. Bien, vous imaginez qu'en France, quand même, dans les études de médecine, on ne fait jamais un travail commun. Vous faites une école de commerce, vous avez des travaux communs, vous faites des projets communs. Actuellement, un médecin qui sort, il n'a jamais travaillé en équipe. Il n'a pas présenté à son professeur ou un examen, un travail en commun.
Monsieur Drévaux,
et après, il faudra faire un parcours de soins. Hein,
on n'est pas le ministère. C'est-à-dire ce que vous dites, moi, je le dis aussi. Je le dis aussi, disons, apprendre à travailler ensemble, c'est effectivement, c'est, disons, quand on est médecin, je ne parle pas de psychiatre, hein, quand on est médecin, on a tout fait pour nous diviser. Le P1, l'internat, maintenant le CN et tout, pour être les premiers, et qu'on ait les meilleurs stages et pas les autres. Donc tout est fait dans les études médicales pour diviser, pour régner, pour avoir son meilleur choix. Donc travailler ensemble, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a travailler avec des collègues qui n'ont pas la même discipline, donc c'était intéressant, ou la même spécialité. Tout à l'heure sur l'accès aux soins somatiques, donc quand j'ai monté une consultation de douleurs chroniques, on était avec des neurologues, avec des médecins du travail, avec des anesthésistes, donc, et bon, avec les médecins traitants. Donc, apprendre à travailler avec les autres médecins qui n'ont pas la même spécialité, avec les autres, qu'ils soient libérales ou hospitaliers, on a des logiques différentes, il faut le dire clairement. On n'est pas, c'est-à-dire que à la fin de la journée, on compte pas la même chose. C'est-à-dire, bon, on est sur des logiques différentes. Moi, sur une logique des services publics, vous êtes sur une logique différente, hein, en libéral, forcément. La troisième chose, c'est aussi au niveau d'une équipe pluriprofessionnelle. Ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas décidé un jour de travailler avec la psychologue, l'assistante sociale, disons, la secrétaire aussi. Il faut dire qu'aussi, ça s'apprend. Alors, ça s'apprend bon, au fil de l'eau, ça s'apprend aussi quand on fait du syndicalisme, on fait que ça. Hein. Mais ça s'apprend aussi par des techniques de management. Et je crois que si on veut aller, alors, dans le sens du parcours de... Alors, c'est ça, on le dit, c'est le parcours de soins, hein, quand même, parcours de soins dans le parcours de vie. Je crois qu'il faut qu'on travaille quand même beaucoup ça. Parce que c'est pas la question de la délégation de compétences, mais quand même un peu. C'est-à-dire aussi ce qu'on fait, ce que vous, à mon avis, vous faites moins en libéral. Moi, j'ai fait pas mal de remplacements à la fin de mon internat, à moins que c'est échangé, mais on travaille pas avec, disons, beaucoup moins avec les psychologues, ou dans des pratiques avancées où on met les infirmières en avant, ou les psychologues en avant, où on fait les supervisions. Dans les CMP, ça existe beaucoup, quoi. Je pense que dans ça aussi, dans les parcours, je crois que c'est aussi important de pouvoir situer chacun à la bonne place, mais aussi, comme l'a dit Claude, que les patients s'y retrouvent. Parce que, c'est-à-dire, il faut aussi que tout le monde s'y retrouve, les patients et les familles. Parce que, effectivement, là aussi, c'est des préjugés, des a priori, ça provient de l'Anne Cooper, dans le temps où les familles, c'était l'ennemi à abattre. Bon, là, c'est vrai que maintenant, tout le monde sait, tous les jeunes psychiatres ne font pas une prise en charge, en tout cas, bon. Dans ma région, alors je pense qu'à Montpellier, ça doit être pareil. Disons, personne ne travaille sans les familles. C'est pas possible. Ça n'existe plus. Hein. Disons, très peu. Alors peut-être qu'il y a quelques endroits, mais ça existe beaucoup moins. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait une visibilité du dispositif, une accessibilité pour que les patients ou les familles... Moi, dernièrement, justement, on en parlait tout à l'heure à table, c'est par rapport à à l'expérience d'hospitalisation à domicile que j'ai mis en place, moi, je vois actuellement des patients qui sont enfermés chez eux depuis de nombreuses années. Aucun psychiatre n'a voulu les voir. Alors, bon, évidemment, ils l'ont évoqué, les psychiatres en psychiatrie en libéral, c'est pas possible. Quand on va à domicile, plus on reste, ça fait 2 heures. C'est impossible d'aller 2 heures chez un patient. Disons, c'est pas possible, quoi. Je veux dire. Donc, on le fait, mais c'est surtout des patients qui sont enfermés chez eux. Et donc, effectivement, c'est ou les patients ou les familles qui nous interpellent parce qu'on a une visibilité aussi par, on va dire, un plan communication aussi. Hein. Il y a un plan presse qui a permis aussi de... pas de dévoiler, mais de rendre accessible, de rendre visible, aussi de rendre moins stigmatisant le soin en psychiatrie.
Je vous rassure un tout petit peu quand même. Vous êtes encore très jeune.
Pas inquiète.
Très jeune, mais depuis votre internat ou la fin de votre internat, les cliniques ont quand même évolué pas mal. La plupart des cliniques, les délégations de soins, les infirmières ont leur place. C'est elles qui font des entretiens, qui animent des ateliers thérapeutiques. Voilà, ça se passe comme ça, avec des psychologues. Il y a les supervisions dans les cliniques privées. Voilà, ça existe, quoi. Je crois qu'il faut sortir un peu ces images d'Épinal. J'en sors, hein.
Oui, alors, justement, Rachel, j'en profiter pour prendre la parole et rebondir sur cette question d'évolution, parce que je crois qu'il y a effectivement une opportunité qui s'ouvre indépendamment de la discussion psychiatrie publique et psychiatrie privée avec le projet de loi santé, à la fois avec un élargissement aussi, hein, je crois que le secteur privé pourra aussi prendre sa place, hein, les textes sont là, et j'ai envie de dire que du secteur psychiatrique au service territorial de santé mentale, évolution sémantique ou rupture historique, moi je dirais que c'est plutôt une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle qui appelle acceptation, avec tout ce qui a été dit, acceptation du rôle des uns et des autres, acceptation de la notion de complémentarité, acceptation aussi de faire des choix et des arbitrages en termes de gouvernance territoriale et des régulations de l'offre, qui appelle aussi des réponses adaptées, mais peut-être que pour avoir des réponses adaptées, encore faut-il investiguer des champs et lancer la recherche, développer la recherche sur le handicap psychique, développer la recherche sur ce qui fait obstacle dans un parcours de santé de vie, ne serait-ce que déjà de vie, mais la santé y contribue, hein. Je ne sais pas comment on peut avoir une amélioration de la qualité de vie si on n'a pas un état de santé qui est adapté. Et puis puisque nous avons une stratégie nationale de santé, qu'un projet de loi de santé existe et qu'il est en cours de discussion, mais il nous faut une politique effectivement de santé mentale, et cette politique doit être interministérielle, puisqu'on voit bien que tous les champs qui sont concernés, il n'y a pas que le champ du ministère de la Santé, et que cette politique interministérielle, elle doit aussi permettre de garantir une certaine cohérence à l'échelon régional, qui pourrait ensuite se décliner à l'échelon territorial. On a vu, on sait combien c'est toujours assez compliqué de pouvoir faire en sorte, et vous venez encore de le dire, de travailler ensemble les uns et les autres, mais la notion d'articulation et de coordination. Voilà. Je ne sais pas si des réactions. Alors, allez-y, puis ensuite, Gilles.
J'avais presque envie d'une petite provocation. Dans le débat qui vient d'avoir lieu, je me rappelle une phrase qui m'est arrivée de sortir. N'oublions pas que les murs de l'hôpital n'ont pas enfermé que les malades. Et je pense que vous avez, dans le débat, qu'il y a un risque, effectivement, de repenser le soin en santé mentale autour de la psychiatrie.
Ah ben non, justement.
Et comment est-ce que, effectivement, on fait en sorte que la psychiatrie devient un acteur parmi d'autres du soin en santé mentale? Et ça veut dire qu'effectivement, là, ça pose une question qui est... C'est peut-être une question de perte de pouvoir, osons le mot. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on joue ces questions-là? La descriptive que je viens de faire sur la question de la coopération, croyez bien que ça ne se joue pas sans ces questions de pouvoir, hein, je les ai évoquées. Mais comment est-ce qu'on arrive, effectivement... Et là, je sais que je m'adresse à des directeurs de centres hospitaliers. Et donc, comment est-ce qu'effectivement, les équipes, vos équipes, sont en capacité autorisée, et plus qu'autorisée, mais impulsée, à aller dans la cité? L'accès aux soins qui a été pointé tout à l'heure par Madame Poisson me paraît un élément important. Quelles sont les premières personnes qui vont détecter le mal-être d'une personne? Ce n'est pas des soignants, ça va être des travailleurs sociaux, ça va être les familles, et éventuellement de médecins de famille, mais il faut savoir que très souvent, les personnes n'ont même plus de médecins de famille. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'effectivement la société soit, elle, reçoive la compétence psychiatrique, soit rassurée aussi pour que les personnes aillent vers le soin et le plus tôt possible. Et je crois que c'est un défi pour tous, pour raccourcir aussi les parcours de soins. Peut-être qu'effectivement, il y ait cette présence dans la vie de la cité. Je crois que c'est vraiment ça le message que je voudrais donner.
Merci. Gilles Moulet.
Oui, moi, je voudrais bien revenir sur l'articulation entre la psychiatrie publique et puis la médecine générale, parce que ça me paraît un enjeu tout à fait déterminant. Et je pense que, à la faveur des évolutions possibles de la loi, je pense que ça serait intéressant quand même que la loi évoque de manière beaucoup plus précise l'articulation entre la psychiatrie de secteur et le premier recours, hein, en disant très clairement que la psychiatrie de secteur assure une prise en charge spécialisée de premier recours, ce qui rendrait beaucoup plus logique l'articulation avec la médecine générale. Ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel, d'autant que bon, il subsiste quand même certaines ambiguïtés dans la législation, hein, parce que vous avez peut-être repéré, par exemple, que le premier recours fait l'objet d'une territorialisation différente. Hein, c'est-à-dire que l'ARS, elle définit les territoires pour le service territorial de santé au public, et puis elle définit des zones pour le premier recours. Donc ça peut laisser penser que le premier recours, c'est-à-dire la médecine générale, est ailleurs que dans le service territorial, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc je pense qu'on aurait intérêt à demander une clarification à ce sujet. Dans le même registre aussi, on en a un petit peu parlé ce matin, notamment le docteur Micheletti, il y a une structure qui va quand même visiblement en ce moment dans le sens de l'histoire, ce sont les centres de santé. La Conférence nationale de santé, dans son avis sur le projet de loi, a fait remarquer qu'elle regrettait beaucoup que la promotion des centres de santé soit renvoyée aux ordonnances. Et la Conférence demandait que la loi elle-même mette en avant les centres de santé. Et je pense que pour nous, établissements spécialisés, le resserrement des liens avec le centre de santé est une piste intéressante. On ne ferait d'ailleurs en cela que suivre la sollicitation de l'Association nationale des directeurs des ex-hôpitaux locaux, qui réclament de leur côté une articulation entre leurs établissements de proximité, ex-hôpitaux locaux et les centres de santé. Et je pense que pour nous, c'est aussi une piste, parce que ça aiderait à un double niveau. Ça aiderait d'une part à améliorer la prise en charge somatique de nos patients ambulatoires, ce qui est quand même, on en a parlé déjà, le problème de l'espérance de vie des patients que nous suivons. On a tous fait beaucoup d'efforts pour l'améliorer pour nos patients hospitalisés. Pour ce qui est de la santé somatique des patients suivis en ambulatoire, il y a beaucoup plus de points d'interrogation, surtout dans des zones très en difficulté. Donc être en articulation avec un centre de santé, ben, ça peut aider dans ce domaine. Mais aussi dans l'autre sens, ça peut aider aussi le centre de santé à faire appel plus rapidement à l'avis spécialisé du psychiatre. Et donc, chacune des deux parties y trouve son intérêt. Donc je pense que l'ADESM pourrait peut-être essayer de pousser un peu les feux sur ces sujets.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Deux réactions.
C'est classique. Merci beaucoup. Oui, moi, je voudrais renchérir sur ce qui vient d'être dit sur les liens avec le généraliste, parce que c'est quelque chose qui est primordial. Je crois que, naturellement, ça touche à des problèmes de formation des généralistes, d'abord, hein, au niveau de leurs études de médecine. Des problèmes aussi de valorisation des actes qui ne sont pas des actes, disons, médico-scientifiques, prescrire un médicament, prescrire des examens complémentaires très élaborés. On n'insiste pas assez en faculté de médecine, mais même pour l'exercice, à l'importance de l'écoute, de la thérapie simplement de soutien. Et puis alors, je pense que là où on a de gros progrès à faire en tant que psychiatre, c'est nos liens avec les généralistes. En tant qu'enseignant, je participe souvent à des jurys de thèse de médecine générale et maintenant on fait pas mal, les futurs généralistes font des études qualitatives, donc en interviewant leurs collègues sur ce qu'ils pensent de la prise en charge de la dépression, des liens avec la psychiatrie. On est fustigé à chaque fois. Les psychiatres sont inaccessibles, on ne peut pas avoir de rendez-vous. Quand on veut leur demander un renseignement, des fois ils ne veulent même pas parler à un médecin. Et alors il y a très très peu de correspondance par rapport à nos collègues spécialistes, hein, je crois qu'on a des progrès à faire sur le suivi et les informations à donner pour justement assurer ce parcours de soins.
Mmh. Ok. Il y a une autre question derrière. Vincent Thomas.
Oui, donc Vincent Thomas, je dirige le CHS de la Sarthe à Le Mans. Je suis perplexe à l'issue de cet après-midi, en revenant au sujet parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie, parce que j'aurais espéré une recherche de consensus entre les participants à la table ronde et les intervenants qui ont précédé autour de, au moins, de la définition de ce qu'on attend d'un coordonnateur de parcours. Il n'y a pas de parcours sans accompagnement pour ce parcours. On voit bien apparaître les points de vue très différents et il n'y a pas vraiment de recherche de convergence. Ça peut être un coordonnateur hospitalier. Les CMP apparaissent naturellement intéressés par cette approche. Ça peut être un médecin libéral, spécialiste ou généraliste, mais les limites de cette approche ont été également évoquées. L'exemple du GCSMS de Rennes tend à montrer la légitimité d'une approche encore différente pour l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques. J'aimerais bien peut-être que Madame Poisson, avec ce regard distancié sur les trois régions qui ont servi de base à cette étude à Naples, nous disent, alors peut-être assumez votre part de subjectivité après avoir présenté objectivement l'étude que vous avez réalisée, que vous nous disiez peut-être ce que vous pensez du bon coordonnateur de parcours en santé mentale.
Oui. Et là, ça va mieux, oui. Oui, alors, moi, je suis un petit peu réservée par rapport à l'idée d'un coordonnateur de parcours, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les parcours, on ne sait pas bien ce que c'est en psychiatrie santé mentale. Et on a travaillé plutôt sur les conditions d'approche des parcours. Comment on peut s'approprier cette notion-là entre partenaires? Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est de me donner un objet qui n'appartenait à aucun des acteurs en propre, où tous avaient un intérêt, se reconnaissaient comme un problème effectivement qu'ils rencontraient et qu'ils ne pouvaient pas traiter seuls. Voilà. Donc nous, on est vraiment là dans l'opérationnalité par rapport à des problèmes tout à fait concrets, et c'est de se dire bon, comment est-ce qu'on empoigne le sujet ensemble. Et on voit que dans ce domaine-là, il y a des problèmes de représentation qui sont absolument énormes. Hein. Chacun voit, c'est un truc bien connu, midi au pas de sa porte. Hein. Donc, il faut déjà arriver à partager des perceptions, à se mettre d'accord sur le périmètre de la question pour dire bon, bah, c'est comme ça qu'on va l'apprendre. Et on désigne un pilote d'action. Alors, c'est comme ça qu'on procède. Je n'ai pas raconté toute l'histoire parce que 15 minutes, c'était un petit peu court. Mais on a fait donc des diagnostics territoriaux. Partagé, comme je vous l'expliquais, sur la base de consensus plus que sur des choses mesurées, malheureusement. Mais bon, on a une feuille de route sur chaque territoire, c'est-à-dire des plans d'action qui ont été reconnus comme prioritaires par les partenaires. Alors, pour des motifs tout à fait différents, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était de dire il faut vraiment qu'on arrive à prendre en compte la dimension du handicap psychique. Donc, on a regardé dans les pistes de travail ce qui pouvait concourir à la prise en compte partagée du handicap psychique, à quel moment, quelle situation, où, bon. Et pour chaque action, on a désigné un pilote d'action. Voilà, un pilote d'action qui fait travailler ensemble les personnes qui sont intéressées à agir. Je crois qu'il ne peut de toute façon y avoir de coordination que s'il y a un intérêt à agir. On rêve tous du coordonnateur, du modèle de la coordination. Ça serait tellement chouette s'il y avait un coordonnateur qui pouvait prendre les choses. La question, c'est que c'est du complexe. Ça passe par plein de choses qui sont quelquefois pas très prestigieuses. Hein. C'est pas des choses énormes, mais il faut les faire. Hein. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rentrer sur un territoire donné, amener les gens à co-construire, à se repérer, à s'acculturer mutuellement, et à décider de ce qui est important à faire ensemble. Alors, je n'ai pas la réponse. Hein. Et les réponses sur les trois territoires sont différentes. Ce que je peux dire simplement, c'est que quand on fait des plans d'action et qu'on qui prend le truc, on le trouve, le coordonnateur, hein, à ce moment-là. On a des pilotes. Et puis, on va bien voir ce qui va se passer à l'arrivée. en espérant bien qu'on va mesurer des choses. Hein. Mais je crois que la coordination, ça ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait un intérêt à agir. Il faut se reconnaître dans une question. Je pense à un sujet qu'on évoquait ce matin à la NAP dans un tout autre domaine. Quand on a commencé à travailler sur les coopérations, sur ces sujets-là, en Bretagne, un tas de gens perplexes autour de la table, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, etc. Puis, il y en a un qui a dit, mais si on essayait de faire le diagnostic du cancer du sein en un jour? Ah! Eh bien, miracle, ma sœur. C'est là que ça, ben là, il y avait quelque chose où, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut comprendre. Il cherchait quelque chose. Mais ben, c'est ça qu'il faut faire. Et la coordination, elle se fait à ce moment-là. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas un minimum de socle de perception commune sur les sujets qu'on a à traiter, sur les territoires, on aura du mal à l'identifier, le coordonnateur, si tant est qu'il y en ait un. Hein. Mais déjà, penser parcours en psychiatrie, c'est déjà un tour de force. Parce qu'il y a la non-demande, parce qu'il y a le problème de l'accès, parce qu'il y a le problème du maintien du lien dans la durée. On a eu beaucoup de mal, par exemple, à évoquer la question des perdus de vue. Les perdus de vue, il y en a en psychiatrie. Alors, comment ça se mesure? Ah ben, ça se mesure quand on en voit hein, qui revient au bout de 5 ans. Ben, d'accord. Bon. Mais comment ça peut se prévenir, la création de situations de perdus de vue? Ah ben, voilà, ben, c'est difficile. Et ça ne va pas de soi. On a passé 3 heures hier avec 8 personnes à essayer de se mettre d'accord sur une façon de concevoir le perdu de vue et d'éviter ces situations-là. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, je crois que la question de la coordination, c'est pas quelque chose de, comme ça qui se décide, qui se décrète avec quelqu'un qui a une vue, un super cerveau et qui va savoir ce qu'il faut faire. Je pense vraiment qu'il y a des questions de... On est sur les territoires de construction territoriale, territorialisée. Et, alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de modéliser. Voilà. Donc, c'est là où on espère qu'on en pourra apporter à terme une plus-value. Bon, parce que on peut, sur les gens qui réfléchissent, c'est leur proposer des choses qui leur permettent de dire, ben, tiens, oui, ça accroche, ça ressemble à ce qu'on a. Bon, OK. Mais ce travail-là d'acculturation, de toute façon, il faut le faire pour les parcours en psychiatrie santé mentale.
Oui, vas-y, Claude.
Alors, il y a deux réflexions. La première, c'est que j'aimerais pas qu'un coordinateur, ça soit une personne qui a de nouveau une espèce de prise de pouvoir, parce qu'il faut faire très attention en psychiatrie. J'aimerais aussi que si je choisis la neige à la place de la Côte d'Azur, mon coordinateur ne dise pas non, 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 ma petite Claude, ça sera beaucoup mieux la Côte d'Azur. Et alors là, je ne serai peut-être pas très heureuse, parce que ce qui compte quand même, c'est que dans mon parcours de vie, le parcours de soins me rende service pour que je continue à vivre dans les meilleures conditions possibles, hein, si possible. Et puis peut-être, pourquoi pas, réfléchir éventuellement, puisqu'on nous donne l'opportunité de réfléchir avec cette loi, peut-être un nouveau métier. Pourquoi pas, hein, voilà.
Ok, merci. Écoutez, ce qui est, disons, la question était intéressante, je viens de la regarder, là, c'était évolution sémantique ou rupture historique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on, disons, ça nous aide à réfléchir ces évolutions sémantiques sur les évolutions et les étapes à prendre dans le dispositif de santé. Je crois qu'on y a tous contribué cet après-midi, en tout cas. Ensemble, on a présidé cette table tout l'après-midi, je veux dire pendant 3 heures. Merci à vous tous, en tout cas, pour votre constance, votre attention et vos questions. Merci à vous.